de notre soirée, de nos deux tables rondes. Après cette première plongée dans l'univers russe, ou c'est-à-dire c'était une perspective française sur la Russie, mais après suivie par les deux revues proprement russes, si vous voulez, mais ancrées dans un paysage russe. Nous passons maintenant aux projets éditoriaux qui traitent des livres, qui portent ces deux livres. C'est-à-dire le paysage éditorial qui se réfère aux livres, par différence, en différence au paysage des revues. Excusez-moi, j'étais distrait par les bruits qui sont là au fond. Je ne me suis pas rendu compte que. J'espère que vous n'avez pas été dérangé tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on a une petite coulisse acoustique. Alors, je vous présente nos intervenants de cette deuxième table ronde. Je commence comme ça dans l'ordre. Bella Ostromokova est maîtresse de conférences de russe à Sorbonne Université. Et elle est spécialisée aussi dans la sociologie de la culture de l'URSS, excusez-moi pour moi, en français tout ça devient encore plus étrange, et de la Russie post-soviétique. Son projet de recherche actuel porte sur l'édition et la distribution indépendante de livres dans la Russie contemporaine. Oleg Nikiforov est le fondateur et le co-éditeur du magazine Logos, mais vous avez plein de projets en réalité encore en cours ou bien déjà terminés. Vous pouvez peut-être nous faire le tableau tout à l'heure. Il y a le projet Lettera Orc qui est là affiché, mais il y a aussi un autre site qui s'appelle Slovar TV, et vous êtes aussi le coordinateur d'un projet qui s'appelle Futurological Congress. Est pour moi particulièrement intéressant d'en savoir plus, et aussi d'un festival du spoken word art, vous appelez ça donc du mot parlé, international à Moscou, qui s'appelle Post-Verbal Condition. Voilà, et vous, Irina Kacheshiladze. Vous êtes éditrice aux éditions NLO, donc New Literary Observer, aussi le site qu'on va afficher tout à l'heure. Vous êtes responsable des projets spécifiques depuis 2013. Vous avez également travaillé dans d'autres maisons d'édition russes, comme par exemple Atticus Publishing Group et Corpus Book, comme éditrice, mais aussi comme chargée de droits étrangers. Donc, vous avez aussi l'expérience des échanges au niveau concret du savoir-faire du livre. Voilà, je passe tout d'abord la parole à Bella pour qu'elle nous fasse un petit tableau introductif du paysage éditorial en Russie. Oui, vous pouvez prendre ça ou pas?
Ça, ça va. Non? Ça marche?
Oui, ça marche.
Ok. Voilà, donc on m'a demandé juste d'introduire un petit peu le paysage éditorial en Russie. Et dire quelques mots sur son évolution et sur la place que les traductions dans le domaine des sciences humaines y tiennent. Donc, comme je ne savais pas le niveau des connaissances du public, je vais dire un peu des choses basiques. Donc, sous sa forme actuelle, ce marché donc, est relativement jeune et il date. Donc ça, il a été libéralisé en 91 et les premières maisons d'édition privées ont vu le jour tout à la fin des années 80 sous la perestroïka, sous la forme de coopératives. Donc c'est dans les années 90, c'était un marché extrêmement dynamique, assez lucratif, qui a connu une croissance dont on dit dans les années 90 plus ou moins chaotique et assez peu formalisé, où souvent il y avait plusieurs maisons d'édition qui apparaissaient, qui disparaissaient. C'est difficile de les comptabiliser parce qu'elles n'étaient souvent pas enregistrées ou enregistrées faisant une autre activité que l'activité éditoriale. Et par ailleurs, certaines maisons d'édition, certaines. Entreprises étaient enregistrées comme des maisons d'édition, mais en fait faisaient autre chose. Voilà, il y avait une sorte de zone grise. En tout cas, c'est aussi l'époque où donc, il y a énormément de traductions dont on parlait tout à l'heure pour les journaux, donc, avec ce phénomène de rattrapage, donc, où des auteurs auparavant très peu traduits vraiment au compte-gouttes et que commencent à être traduits plus massivement à la perestroïka, donc arrivent en masse sur le marché. Et par ailleurs, donc, c'est aussi le moment de l'ouverture des archives. C'est le moment aussi où la société a besoin de parler de certains traumatismes de l'histoire soviétique qui était déjà débattue à la perestroïka, mais donc ça continue sur cette vague. Donc le secteur, on va dire, des sciences humaines et sociales est donc très vivant à ce moment-là, très bouillonnant, et en même temps fragilisé dans sa partie institutionnelle, on va dire, puisque donc il y a la production à proprement parler universitaire diminue, puisque les universitaires vivent dans des conditions assez difficiles, les universités doivent se concentrer sur la survie commerciale, etc. Voilà, donc un domaine à la fois très vivant et très fragilisé. Et donc, au cours des années 2000 et 2010, le marché du livre en général se structure, se formalise et se polarise. Donc, il y a des grandes maisons d'édition qui monopolisent de plus en plus la production et la distribution. Donc, cette polarisation arrive à son summum, on va dire, dans les années 2013-2014, quand il y a deux grandes maisons qui fusionnent, donc créent réellement un monopole. Et donc, de l'autre côté, de très nombreuses petites et moyennes maisons d'édition, donc qui essaient de survivre dans des conditions, on va dire, d'inégalité en ce qui concerne la distribution et en ce qui concerne aussi les moyens financiers mis à la production et à la promotion. Donc, les éditeurs des sciences, en ce qui concerne les maisons d'édition spécialisées, qui éditent les sciences sociales, donc on a d'une part des maisons d'édition consacrées avec des figures assez identifiables. Donc, vous avez des représentants, donc notamment le NAO, l'Obs, etc. Vous avez la Spen, une histoire. Bon, bref, donc aussi bien des maisons d'édition à profil généraliste que spécialisées plutôt dans une branche disciplinaire. Et par ailleurs, vous avez des maisons d'édition généralistes, mais avec l'accent sur une littérature. On va dire intellectuel, un peu comme ce qu'on avait vu pour Logos, donc comme par exemple Ad Marginem, qui publie des livres intellectuels de sciences sociales au sens large, et par ailleurs essaie de promouvoir, en tout cas dans les années 2000, le roman russe contemporain. Mais petit à petit, en fait, leur politique éditoriale se concentre plus autour des sciences humaines, puisque tout ce qui est littérature de fiction, en fait, est monopolisé par les grandes maisons d'édition, AST, Exmo, etc. Donc, en fait, les sciences sociales deviennent en quelque sorte une niche en tout cas pour eux et pour quelques autres. Moyenne maison d'édition. Voilà, donc en fait, dans ce panorama, je me demandais, et ça c'est plutôt une question que je poserais aux acteurs, c'est-à-dire comment les textes étrangers viennent s'intégrer dans le portefeuille éditorial d'une maison d'édition russe, puisque, bon, éditer un texte, traduire un texte étranger, c'est plus compliqué. que publier un texte russe, ça, c'est plus cher, ça demande l'achat de droits, ça demande de payer un traducteur, même si on voit qu'ils sont sous-payés. Ça implique d'autres acteurs, ça implique de chercher des bourses auprès des instituts étrangers, auprès de l'institut de traduction, ça implique des démarches administratives, etc. Donc c'est plus lourd. Mais par ailleurs, c'est payant sur le plan symbolique, c'est payant sur. Et ça s'intègre en fait dans un projet, souvent dans un projet éditorial, qui est en fait d'élargir le champ des possibles nationales et, comme on a vu avec les revues, de s'inscrire dans un contexte international. Donc en fait, voilà, agir sur le plan national et finalement sortir de ce cadre. Voilà, donc en fait, comment est-ce que ces textes, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les deux contreparties s'équilibrent? Et je suppose que enfin, pour chaque maison d'édition, la réponse est particulière. Qu'en est-il aussi des mouvements d'appropriation et d'importation, exportation? C'est-à-dire bon, achat des droits, vente des droits, techniquement, quelle est la proportion entre les deux? Il est vrai que je n'ai pas étudié ça sur l'exemple de la littérature de non-fiction. Ce que j'ai vu, c'était sur l'exemple des maisons d'édition pour jeunesse, pour adolescents, on va dire, où il y a eu une sorte de flux-reflux, c'est-à-dire que dans les années 90, dans les années 2000, il y a eu un constat comme quoi il y a un vide de littérature jeunesse. On vivait sur des anciens acquis et il n'y avait rien qui se passait. Et il y a eu une importation massive de savoir-faire, de techniques, de types de livres étrangers. Et après une période d'assimilation, en ce moment, il y a un mouvement très actif vers l'exportation de savoir-faire. Et d'une littérature jeunesse russe vers l'étranger. Donc, qu'en est-il des sciences humaines? Personnellement, je n'ai pas l'impression qu'on en soit dans le deuxième stade, mais peut-être que vous me contredirez. En tout cas, en ce qui concerne le français, j'ai essayé très fort de réfléchir quels sont les auteurs russes que j'ai vus traduits en français, et je n'en ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'on les lit soit en russe, soit en anglais. Enfin, ils sont traduits en anglais et ils circulent dans le sens. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne circulent pas dans le champ intellectuel international, mais en anglais. Et ils ne passent pas par le français, ce qui n'est pas le cas d'auteurs, par exemple, anglo-saxons, qu'on traduit en français. Ça ne veut pas dire qu'on suppose que tous les Français lisent en anglais, mais je ne sais pas, il y a une case qui manque à cet endroit. Voilà, en tout cas, si on parle de la traduction de textes et des maisons d'édition, en fait, ce qu'il faudrait aussi mentionner, et il me semble que ces textes-là ne figurent pas, par exemple, dans des statistiques officielles, c'est que, il y a également une circulation de textes engagés, militants, qu'on peut aussi considérer comme des textes de sciences humaines. Par exemple, d'inspiration anarchiste, enfin, des réflexions sur la société, etc. Et ces textes-là donc, passent par des maisons d'édition non professionnelles ou en cours de professionnalisation, comme Commonplace et d'autres, Radical Nature et Practice, comme etc. Voilà, donc, pour celles que j'ai nommées, donc, il s'agit de collectifs de traducteurs bénévoles donc, qui introduisent des textes d'auteurs de pensée de gauche, on va dire, occidentale en Russie, qui me paraissait important à souligner que c'est également aussi un acteur de marché souvent sous-estimé. Voilà. Je vais juste citer quelques chiffres, même s'ils sont difficiles à interpréter, à mon avis, donc des statistiques aussi bien françaises que russes. Donc en France, si on regarde les catégories d'ouvrages traduits du français dans d'autres langues en 2017, on traduit assez peu de non-fiction et de SHS en général. 10% en ce qui concerne SHS, donc on exporte assez peu. Ce qu'on exporte le plus, c'est jeunesse et bande dessinée, qui font à eux deux 50, plus de 50%. Les livres français sont majoritairement traduits vers le chinois, 20%. L'espagnol, l'anglais vient en cinquième position, ce qui a été une surprise pour moi. Et le russe en dixième position, ce qui est quand même pas mal. On est dans le top 10. Quant aux traductions vers le français, la situation du russe est beaucoup moins avantageuse. Bon, évidemment, la première source est l'anglais, 63%, et le russe fait moins de 1%, apparemment. J'ai appris ce matin. En tout cas, bon, en revanche, ça j'ai déjà dit. Donc, pour les statistiques russes, selon l'Agence fédérale de la presse et des communications, 10% des livres parus en Russie aujourd'hui sont des traductions, tout genre confondu. Le français est la deuxième langue après l'anglais. Donc, voilà, le français est beaucoup plus présent dans le champ russe que le russe dans le champ français, en tout cas. Et donc, en fait, il y a une très forte polarisation. En fait, dans les traductions, 90 langues sont présentes, mais 60% des traductions le sont de l'anglais. Et l'écart est énorme entre l'anglais et le français, donc 60% de l'anglais et 7,5% du français. Mais c'est la deuxième langue quand même. Voilà, mais en fait, si on regarde ces correspondances, bon, c'est tout genre confondu, évidemment, il n'y a pas de traduction, enfin, il n'y a pas de statistiques par type de traduction. Et de manière générale, en fait, moi, ce qui me pose problème dans ces statistiques, c'est la classification, en fait, et ce qui m'amène à poser la question, et peut-être poser la question aux participants de cette table ronde. Sur les différences en fait de ce qu'on appelle sciences humaines, les SHS, etc., en russe, en français, et à quoi ça correspond exactement, quelles sont les composantes de ce champ. Parce que, voilà, comme disait Alexandre tout à l'heure, il classifiait Logos plutôt de revue intellectuelle. Voilà, on a. En français aussi, voilà, on a tout ce qui concerne du domaine intellectuel, des sciences humaines et sociales. En russe, on a tout ce qui est non-fiction qui recouvre à peu près le champ intellectuel. Après, si je regarde par exemple la catégorisation des statistiques de l'Agence pour la presse et l'Agence fédérale de la presse et des communications, il y a leur catégorie, c'est. Je ne sais plus si je les ai notés. Non, je ne les ai pas notés. Mais ils avaient des catégories genre littérature scientifique. Alors, est-ce que SHS, enfin, ça recouvre tout, je suppose, mais est-ce que les SHS rentrent complètement là-dedans? Il y a la littérature d'études, Учебная литература, je ne saurais même pas exactement comment le traduire, en France. Hein? Mais ce n'est pas des manuels, forcément. Et alors, ce que je n'ai absolument pas su traduire en français, c'est справочная littérature. Voilà, mais donc les SHS, là-dedans, ils sont uniquement dans la littérature scientifique. Okay. Mais voilà, en tout cas, cette catégorisation me paraît étrange. Enfin, la littérature scientifique, enfin, c'est. parce que du coup, elle ne recouvre pas la littérature intellectuelle qui en dépasse. Voilà. Voilà, mais... Et donc, du coup, ce qui... En fait, quand on traduit des SHS ou de la littérature intellectuelle dans, d'une langue à l'autre, dans quelle catégorie on tombe ? Est-ce qu'on... Enfin, est-ce que, du coup, les maisons d'édition se correspondent ? Est-ce qu'il y a des équivalents, etc. Ce matin, j'ai assisté au BIEF à la table ronde sur la littérature, enfin sur l'édition, les nouvelles tendances dans l'édition en sciences humaines et sociales. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait un net décalage. Donc, il y avait la directrice de Rospen, qui est la maison d'édition qui vise des universitaires spécialisés en histoire, et il y avait un éditeur de chez Payot. Donc se présentait aussi comme un éditeur en sciences humaines et sociales, mais sauf que pour lui, les nouvelles tendances, c'était... En fait, en gros, il parlait des nouvelles tendances dans la vulgarisation, enfin, visant le grand public, en parlant des romans graphiques, des BD faites par les Pinsons Charlot, etc. Ce qui, visiblement, a énormément chiffonné la directrice de Rospen. Mais non, et donc on aurait pu penser comme ça à première vue à une fracture entre les Russes et les Français, sauf qu'ensuite pendant la pause il y a eu les éditrices de CNRS Éditions et CERF qui sont arrivées pour lui dire mais on est avec toi, nous non plus on n'aime pas du tout les BD des Pinsons Charlot, on est pour de la littérature sérieuse, documentée et pas pour ces nouveautés voilà. Donc, dans les deux cas, il s'agit de champs larges aux frontières très mouvantes, et c'est intéressant. Ce serait intéressant de voir comment ces champs interagissent lors de la traduction. Est-ce que ça change leurs frontières ? Est-ce que est-ce qu'il peut avoir des quiproquos, des malentendus ? Et est-ce que dans votre pratique, par exemple, c'est déjà arrivé ?
Je vais peut-être commencer par vous remercier de m'avoir invité. Et donc, je ne sais pas si je dois dire quand même sur MLO. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, je dirais juste en deux mots et puis je passe à vos questions si vous pourrez évoquer ce problème aussi. Les éditions MLO ont été fondées en 1992. Et donc, ça fait déjà 5 ans et c'est assez considérable, ils ont pour aujourd'hui. Et il faut dire ce qui est important, je crois, que les éditions MLO ont été lancées par la création de la revue de critique littéraire de mon titre, qui a donné le nom à la maison et qui s'est augmentée depuis. Par des collections de livres et qui comptent maintenant plus de trentaines de collections dans des domaines tout à fait différents. Donc on commence par on a une collection qui est nommée exactement la collection scientifique, mais qui si je le commente, c'est plutôt la critique littéraire ou alors la philologie propre. Et puis on a des collections sur les sciences sociales, sur et des collections beaucoup plus, je dirais, plus intellectuelles que scientifiques, qui touchent surtout des problèmes de la culture du quotidien, de l'histoire, de la mode, par exemple, du cinéma, d'art, etc. Et donc, dès sa création, la revue, et puis après la maison d'édition, avait comme objectif de... En fait, c'était l'idée de présenter au public professionnel, plus en forme, je dirais, tout ce qui était inaccessible avant, Et donc, mais c'était là, dans les années 90, et qui n'a jamais été traduit en soviétique, dans le domaine des sciences humaines, et premièrement les statistiques. Pourtant, il faut dire que Nello, ce n'est pas la maison d'édition spécialisée en traduction. Donc, on traduit, je dirais, peut-être un tiers de notre production de livres. Ce sont les traductions, mais ce n'est quand même pas la maison spécialisée en traduction, parce qu'il y en a d'autres qui sont les plus puissants. En fait, mon objectif est de la traduction, qui est des collections complètes de la littérature, par exemple. Mais ce qui est important, ce qui distingue peut-être Nello d'autres maisons d'édition, c'est en fait, c'est pas l'idée de rattraper ça aussi, mais pas peut-être essentiellement ça, mais c'est l'idée de poser, je dirais, de placer les sciences humaines en Russie dans le contexte international, c'est-à-dire de parler la même langue, comme ça, avec en sciences humaines aussi. Et bien évidemment, ce qui était indispensable pour l'effectuer, c'était de traduire un certain nombre des ouvrages qui n'ont jamais été traduits avant. Et donc, dans un certain sens, cette idée est toujours vivante, mais qui est parce que le monde vraiment a changé énormément depuis les années 80, et je me réfère surtout à l'Internet et à l'accessibilité du savoir, disons comme ça. C'est-à-dire, maintenant, c'est un peu plus complexe, parce que, en fait, c'est pas déjà, bien sûr, l'idée de rattraper tout, mais c'est surtout c'est l'idée de présenter c'est la qualité de produit en matière de traduction, parce que bien sûr, si vous êtes intéressé, si vous vous occupez des sciences humaines, normalement, peut-être vous pourrez avoir accès à n'importe quel ouvrage par Internet. Ce n'est pas déjà le problème de ne pas avoir accès ou ne pas pouvoir trouver quelque chose, mais c'est de présenter quand même un ouvrage traduit de qualité, de qualité, de certaines qualités. Et donc ça, c'est important pour la maison, pour Venelo. Et donc, ce qui est encore important pour Venelo, je dirais, c'est la voie ou le trajet, comment un ouvrage ou un projet de traduction, par exemple, apparaissent dans la rédaction. C'est-à-dire, il y a deux systèmes, ou alors il y en a plusieurs, mais bon, je parlerai. Il y a deux systèmes principaux, c'est-à-dire, il y a un système classique éditorial, par exemple, quand il y a l'agent littéraire. Il y a l'éditeur, il y a cette connexion entre les deux. Alors, vous fréquentez, vous allez voir des livres, et donc vous pouvez, en fait, vous recevez de l'information d'autres éditeurs partenaires. Et donc, c'est comme ça que beaucoup d'éditeurs, surtout généralistes et surtout en fiction, je dirais, c'est la source de l'information. Chez Nello, c'est un peu différent, bien que ça existe aussi. Mais pour Nello, ce qui est très important, c'est le cercle académique et le cercle professionnel qui existe autour des éditions et qui, en fait, est une source très importante de. En fait, c'est cette communauté académique qui est autour des éditions. Donc, par exemple, s'il y a par exemple, en fait, quelqu'un de nos collègues qui va présenter un projet, introduire un projet aux éditions, C'est enfin, évidemment, c'est peut-être lui-même qui sera le traducteur, ou alors, ou au moins, il va contrôler le procès de traduction. Et en même temps, c'est lui qui peut-être va créer le commentaire pour cet ouvrage, ou alors un préface, ou n'importe quoi. Je parle des choses déjà pratiques, mais quand même, c'est pas le. En fait, le fait, c'est que les ouvrages qu'on publie, la plupart, ce ne sont pas des ouvrages qu'on peut, disons, traduire assez techniquement. C'est pas le, mais ça doit être présenté ou alors introduit au public au niveau spécifique et au niveau scientifique correspondant, congénial à l'ouvrage même. Et donc ça, je trouve vraiment important. Et parce que parfois, il y a un problème de langue, il y a le problème de traduction. C'est pas la traduction de, en fait, c'est pas la traduction. Mais il faut créer des termes. Ou alors c'est le phénomène de, faut créer la langue de description en russe d'un tel ou tel phénomène, par exemple. Et chez nous, ça c'est très important parce que chez nous, il y a des collections différentes, des chefs de collection. Et normalement, c'est par des chefs de collection qu'on reçoit ces, en fait, ces projets, ces idées de projets. On va après discuter, il y aura le bord qui va discuter, prendre des décisions. Et c'est comme ça, c'est pas en fait, c'est pas par l'intermédiaire des agents. Voilà, ça c'est. Ça, je pensais que c'était important. Donc, en ce qui concerne, je dirais, les traductions, en fait, en ce qui concerne le passage en sens inverse, c'est, je dirais, beaucoup plus compliqué, vraiment, parce que nous, on s'occupe quand même des. En fait, on essaie de faire traduire nos auteurs en langue étrangère et on le réussit de temps en temps. En fait, on a pas mal de traductions en anglais, en chinois, comme vous l'avez mentionné, oui, c'est vrai, parce que oui, là, en Chine, on traduit beaucoup. Et, mais oui, avec le français, c'est pas comme ça, c'est pas tellement, tellement efficace pour le moment, mais bon, on espère. Je sais pas, je crois que c'est un peu. Vous savez, en fait, c'est la question que j'aimerais poser pour toi, aux collègues français, c'est que c'est pas à moi de répondre, mais quand même, en fait, en ce qui concerne. Les traductions, là, bien sûr, faut quand même faut être prudent, très, très ponctuel en choix d'éditeur ou en choix de vis-à-vis à qui vous parlez, mais en fait, à qui vous présentez un ouvrage. Mais ce que je trouve, ce que peut être potentiellement le problème, c'est la langue. Parce que en fait, je crois qu'il y a cette barrière quand même, et que peut-être, en fait, c'est pas tellement. En fait, je sais pas, c'est mieux même, par exemple, avec l'anglais, mais avec le français, si vous n'êtes jamais sûr, si vous présentez un ouvrage à l'éditeur, vous n'êtes jamais sûr qui est la personne qui décide, qui effectivement va être quelqu'un qui va lire cet ouvrage et qui va prendre la décision. Et donc, je crois que c'est en fait, c'est le problème, c'est notre problème aussi, ou alors, premièrement, c'est de faire comprendre, de faire passer cette idée de ce qu'on a, pourquoi ça devrait être traduit. Mais il y a bien sûr un problème. Là, il faut pas, on peut pas en parler, on peut pas en parler sans évoquer le côté économique. Et donc, faut quand même comprendre que ben, chaque traduction, c'est le risque économique. Et pour l'éditeur, on ne peut pas le forcer à prendre une décision s'il ne soit pas vaincu, s'il ne soit pas tout à fait. S'il ne croit pas en cet ouvrage, puisque ça dépend de prendre les risques, on ne peut pas le faire prendre les risques. Voilà, ça c'est bah, très généralement ce que je peux dire. Oui. En ce qui concerne, vous avez dit le domaine sciences humaines et tous les. Oui, c'est. En fait, là, j'ai. Parce que moi aussi, j'étais pendant cette table ronde de cet après-midi. Et oui, bien sûr, on a remarqué cette différence, ouais, entre les deux éditeurs. La Russe qui était, oui, qui se positionnait comme un éditeur purement scientifique, académique, je dirais, et donc et qui, comme j'ai pensé, qui n'acceptait aucune possibilité de, mais je dirais pas de vulgarisation, mais c'est plutôt de faire quelques pas vers le public plus général, en fait, pas très spécialisé, c'est-à-dire, et l'autre, l'éditeur français qui a fait, en fait, tout un chemin vers la popularisation de ces ouvrages. Là, nous, par exemple, les Nello, on est, je dirais, aujourd'hui, je parle de la partie de la maison qui se. Alors, je dirais, c'est oui, c'est plutôt académique, intellectuel, dans le sens que, en fait, dans le sens du terme qui existe en français. Mais par exemple, on a cette collection que j'ai déjà mentionnée, c'est le culture du quotidien, et on a beaucoup de traductions de français dans cette collection. Et par exemple, il y a simplement un exemple le plus récent, il y a quelques ouvrages de Michel Parturo qu'on vient de traduire, et qui ont, en fait, ont pas, je dirais pas que qu'on peut anticiper, mais c'est vraiment un succès énorme. Mais ah, je vous dis, c'est. Ah là, oui, franchement, c'est Everyday Culture. Ah oui, mais là, je dois vous dire que notre site anglais, c'est pas vraiment un exemple. Oui, mais c'est en fait, on est en train de changer tous nos, en fait, notre image numérique. Donc, on fait un autre site et ça va être lancé très très prochainement. Donc, mais là, on n'a pas tous les ouvrages. Et là, surtout, ce sont des ouvrages dont on représente à traduire, dont on représente les droits. Et donc, les ouvrages qu'on a traduits de français, présents. Mais bon, par exemple, c'est cette série de livres de Pastoureau sur l'histoire des couleurs. C'était vraiment un succès incroyable. Ben, disons, c'est pas, bien sûr, c'est pas des centaines d'exemplaires, mais pour nous, et on a parlé cet après-midi des tirages, et voilà, ma collègue, elle disait de parler qu'il existe, qu'elles font au maximum 1 000 d'exemplaires de tirage, mais bon, avec, par exemple, quelques ouvrages dans cette collection-là, on arrive jusqu'à 5, 7 000 exemplaires. Et donc, je ne sais pas si on peut quand même. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire de l'intérêt envers la littérature en sciences humaines en général, mais quand même dire, moi j'en suis J'en suis sûre que oui, cet intérêt il existe et il est très très vraiment avec. Mais bon, ça il est de plus en plus évident. Oui.
Ce constat, cette vision. Je crois que vous allez vous exprimer en anglais.
En anglais, je préfère communiquer en anglais, excusez-moi. Mais it will be better for all of us. Yeah. The best for me would be to speak Russian. Thinking in Russian, and when I'm starting to think when I'm starting to think. In any case, with all due respect to Enlevot, to the colleagues from Text, to the colleagues from Raspen, they are doing great stuff. Doing a great job in introducing and promoting and producing new titles in Russian humanitarian field. So Logos, well, it's a bit different. It's quite singular and quite personal in plural project. What's important is friendship, what's important is desire, the main points, and also it's important to choose to make good friends, professional friends in something, and to use the competence in producing books, producing text, promoting text and books, and from desire, yeah, not step away from your desire. If you put something, you should be loyal, you should be faithful to your beginnings, and try to follow the way. Sorry for this metaphysical introduction, and I'll tell you a story, because I have no theory and I have no presentation. Publishing of our publishing house, our project. I have some stories, and these stories include some stories of success. And as the most remarkable success, dealing with translation from French, it was success of our project of translation of Jacques Lacan, of Jacques Lacan's seminar in the Russian. We started it quite occasionally in 1994, and to this moment, 10 volumes of seminar is translated into Russian, plus some minor texts like "Funzione stampe parole di linguaggio" and stuff like this. And that's really amazing. Why Lacan? So it's the most long-living project, translational project. When I came into publishing Essence, being state, it was 1991, and it was our project with Valery Amashvili and Igor Kiparov of first philosophical independent magazine, Logos. And it was a great time. It was, 7 years a romantic period when we were introducing something really new, and well, it was, I guess, like May 68 in Quartier Latin here. So anything is possible. Yeah, exactly. I was in the founding crew, and I stepped away in 1997 and founded this Logos publishing house. And while Victorian, then money came. Yeah, money of George Soros. It was great project of funding the translational project with the repetition, postponing it to Prebilov. Yeah, yeah, it was great time. I wrote hundreds of crucial books from 70 years of European and American experience for the persons who wanted to read it, to have it read and to have it understood. Yeah. And for the young guys who were born in 80s, it was already there, yeah? So it was already belonging to the Russian language landscape. So the books of Foucault, Barth, Gustav, Heidegger, and so on and so on. But for the guys who were born in 60s, in 70s, or earlier, it was too much to digest. It was very repressive to the creative potential of that generation. Yeah? It's a moment, I guess, it's written and discussed many times, Alexander. But Dr. Pash was really shocking. Yeah?
So yeah.
Our book. Okay. Of course, when we talk about Lacan, so it's Russian Lacanian.
Yeah.
And they are quite numerous, yeah? So we do publish 3,000 copies per time. That's quite amazing. And first 2,000 getting sold in the first 2 years. Yeah? 10 volumes will be published. And just interesting as well, yeah. Not only practicing psychoanalytic of Lacanian orientation, but there are. Yeah? And it was amazing that from the scratch, from nothing, some community got grown. Yeah? There is Russian speaking Lacanian community from nothing, just for some 20, 24 years. There are no Hussarians, there are some strange Hegelian communities, yeah? This conservative revolution discourse comes from time to time to climax point. Foucault, everybody respects Foucault, but other circles of Foucault followers, Denis in Russian, he's living in Paris. That's strange, but it did happen. Okay, concerning our project, translation project from dealing with French text. So the choice is, in our case, always more or less singular, personal. So, Cornelius Castoriadis. Constitution imaginaire de la société. That's quite challenging, less translated. Okay, we got translated, we got published it, no much. It was a brick in building up the context, for example, just to understand properly Guy Debord text was to be published. It was the socialism of Barbary. Had the preliminary place to that insurrection of the situation. And then faculty after Institutional Innovation at the Secretariat, we published this later text from early 90s of Cornelius Castoriadis. So, and we just filled up the lacuna. The Russian readers and activists who wanted to identify themselves with left history, okay, they have just Russian text where they can see themselves in the mirror or just pretend I'm moving to in some different path in some different way. But then, okay, dealing with that situation of situationists, so we make a step backward to surrealism. Research to the sexuality, some strange project of André Breton, collective project when surrealists and their guests get together talking about sex, but before Master Simpsons and before all the sexology, and parallel to Freudian effort of thinking the things. So it's a kind of always in best variant, it's always an effort to grow up a context. Well, for example, it's just an example concerning the new text, producing the new text. We are not academic, we don't belong to university, and we don't follow the rules. University, academic, or public schools. We know the quatre discours de Lacan, discours Demet, discours Desclave, discours analytique, discours discours historique. Well, it helps us to identify where we are. We don't belong to the power, we don't belong to university. We are moving from discours historique to discours analytique. Somewhere, sometimes in one place, sometimes another. So, and this could trick, it's this could heroic as well. And here, the genre, the verbatim text appear in our field of interest. Verbatim are just testimonies, literary testimonies. Well, you're trying to present it not only for the text, but for the living word, for the spoken word. That's why the project like Dictionary of War Moscow appeared in 2009-2010, and then recently this post-Babel condition festival of spoken word. It's quite a long story to tell here and now, but it's always a kind of research, it's always a kind of quest. It's always execution of your promises you mistakenly or consciously has given before. Well, and last moment concerning Litera project, litera.org project, it was a Russian replica to international magazine, intellectual magazine project, Lettre Internationale. It was organized in 1982 or 84 here in Paris by Antonin Lin, Czech emigre. But the most successful edition is German that does publish four times a year very quality, very intensive text on the contemporaneity. What is it lecture here and now, not shutting your eyes to all the problems of the world around you. So it was our attempt to make it in Russian. So it's certain text. Every text made as a little brochure, you can see. Yeah, please. One text, one brochure. In every text, there should be enough meaning, enough information that you could get as a whole. Okay, that's the moment of mine here and now. So, of course, from that certain text, not at perfect, yeah, but everybody from this hall will find two or three texts that will satisfy him or her. And more or less the same with the German colleagues who we used to work together in close contact. And they, in Germany, they have a principle, not less than 60% of the text should be translated. So for them, it's a challenge. Let's not think about ourselves as self-sufficient. We are Germans. Yeah? Let's translate it. So it's not a kind of sign of your regress when you translate it. It's kind of your optimism. Oh, point.
Yeah,
point.
I know. Because it's very fascinating to hear both of you, because from very different kinds of
civil. Yes, thank you. The civil society in Russia, maybe we here don't have this insight in this society. We just seeing all the time destruction of Russian society in now in these days, and so. You are reflecting two ways to deal maybe with this, to deal with, to develop strategies to have intellectual life in very different ways, because I put it in these terms because there's kind of like a little opposition between you. And this is really, really interesting to hear. I don't know, maybe you want to react because if you want to, if not, maybe there are questions for you, or maybe you have a question back to dans les langues que vous souhaitez parler ici.
That's right, but you are very different. But do you interfere? It's always mysterious for me. Does it happen that you publish the same text with different translations coming different by different, and why, technically? Yes, from modern.
But there is a rights question. There is a rights question. We just literally cannot publish same things because we do have the rights holder. And, and the rights normally are
exclusive.
Yes, are exclusive and are given just to one or another publisher. And so that's actually there is no sense in having like several, except some special cases, have several translations on the market. But if we talk in terms of market and book sales, but. It depends. No, we do not. We do not interfere. No, I do. I do not remember.
And and Leon, you literally review have much more resources than us. And for us, every good book made by and Leon is okay. Bonus for us. We shouldn't do. Yeah, it's already done. Yeah, we could make something more specific.
Definitely, I do not have. Actually, I do not see any
you know, like strong opposition between the
well, we are quite complementary.
Yes, I think. I think so.
We share some Russian authors. For example, Mikhail Rytvin from time to time does publish. Sometimes out of it.
J'ai une question à Irina, parce que ça touche la question des traductions dans l'autre sens, c'est-à-dire la traduction des auteurs russes, surtout en anglais. Je sais que. Des traductions et que. NLO s'associe avec. Non, pas tellement. C'est-à-dire.
En fait, non, pas du tout, je dirais, parce que quand même, la Fondation Favorable, c'est tout à fait un indépendant des éditions. Alors, on a une organisation. Et là, je ne. Pas vraiment, je ne présente d'aucune manière la Fondation. Je ne sais peut-être que. De l'organisation de l'aide à production, vraiment, et je sais que ce programme fonctionne très bien, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de, en fait, de, il n'y a pas de priorité, par exemple, pour un élo, parce qu'il y a des experts qui peuvent être mieux ou pas, alors les auteurs. Mais je sais que oui, ça existe. En même temps, c'est juste une traduction auprès de l'agence gouvernementale des enfants qui aussi question. Et donc maintenant, au Salon du Livre qui commence demain, je crois qu'il y aurait une trentaine des auteurs. Qui ont été invités et qui sont déjà traduits en français et qui, je ne sais pas, parmi eux, je sais, il y a d'autres, mais oui, il y a même des auteurs de NLO, mais c'est pas très. C'est pas très
et ma question, c'était pardon, justement, est-ce que dans les sciences sociales, il y a des auteurs qui ont été. Enrichir cette aide de la traduction. Est-ce qu'il y a des auteurs d'NLO? Est-ce que vous pouvez retracer leur trajectoire à l'étranger? C'était ça l'essence de la question. Parce que ça se recoupe avec le questionnement de Bella. Comment ça arrive que les auteurs russes ne circulent pas autant en France? Ou, si on ne parle pas de français, de la traduction en anglais?
Mais, bon. Non, je ne pourrais pas peut-être. Non. Parce que en fait, non, ça ne me vient pas. Pas un seul nom de nos auteurs et donc le livre. Parce que si on l'avait, c'est bien sûr on le commentait, en fait, ce serait. Mais bon, je sais par exemple qu'il y a beaucoup de ouvrages scientifiques, dont de Shklovsky Tinian, traduit en langue, plusieurs langues. Il y a des Espagnols qui le traduisent, il y a des. Je crois que les Français et tout, il y a beaucoup de la Croatie, des traduits en tchèque, et tout ce que j'ai vu dans le catalogue de la Fondation qui ont été soutenus. Mais en ce qui concerne les ouvrages contemporains, il n'y a pas autant de conscience. En fiction, oui, il y en a beaucoup.
Je vais vous passer la parole tout de suite, mais par rapport à cette question, on devait avoir un intervenant en fait tout à fait de choix, puisqu'il a mené plusieurs projets pour faire traduire des auteurs russes à l'étranger, notamment en France. Oleg Kara, son nom m'échappe tout d'un coup, qui était l'ancien recteur de l'université de Saint-Pétersbourg.
Kharkhodian.
Kharkhodian, oui, c'est ça. Oleg Kharkhodian, j'ai du mal. Kharkhodian, qui m'a expliqué comment le projet en fait qu'il avait avec Fayard a échoué en 2008, qui était de traduire toute une série d'auteurs contemporains de sciences humaines russes. Il y a eu en fait la conjoncture économique. un problème de fondation qui, à ce moment-là, n'a plus voulu donner 10 fonds. Et puis, voilà, des acteurs qui changent et ça n'a pas été repris. Et finalement, son projet, il l'a développé avec Politis en Angleterre. Donc, en fait, voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites avec la France à un moment et qui, aujourd'hui, peut-être... sont plus compliqués parce que les maisons d'édition ont encore plus de problèmes à trouver des fonds pour la traduction. Je parle des maisons d'édition généralistes françaises sur les sciences humaines, notamment Fayard, qui a abandonné un certain nombre de projets de traduction. Donc maintenant, il faut que ça arrive d'autres biais, peut-être d'éditions plus académiques comme les nôtres. Voilà, je me tourne vers Jean-Baptiste Boyer, qui travaille avec moi aux éditions de HESS, ou bien des projets qui sont financés du coup beaucoup plus par l'université et par d'autres biais. Mais c'est vrai qu'il y a un problème peut-être de manque d'attention à ce qui se fait en Russie. Et pas seulement en Russie, dans d'autres pays du monde. On l'a vu de nombreuses reprises ici avec vous. Donc, c'est le fait que les éditeurs français ne font pas de veille en sciences humaines et sociales. Ils le disent tous. Ils en font parfois en littérature, mais très, très rarement en sciences humaines et sociales. Donc, ce déficit de veille fait que... les médiateurs, les intermédiaires sont des personnes clés, donc souvent les traducteurs, les gens qui amènent les projets, et que voilà, c'est chez nos manquants, et à des moments, bah, ça se fait ou ça ne se fait pas. Mais c'est vrai que c'est notre problème français. On regarde moins l'étranger que les Chinois, c'est ce qu'on s'aperçoit en regardant les chiffres. Voilà, excusez-moi. Oui, peut-être, il y a voilà, une question.
J'ai une question un peu, je dirais, subjective qui m'intéresse en tant que philosophe et en tant que traducteur de la philosophie française du XXe siècle vers le russe. Et la question elle est adressée aux éditeurs russes. Donc, je vais poser en français et traduire en russe après. Mais la question, elle est tout simple. Qu'est-ce qu'il se passe avec la traduction, le travail de traduction de la philosophie française contemporaine du XXe siècle? Actuellement, parce que voilà, j'ai perdu un peu le contact avec ce qui se passe dans les dernières décennies, deux dernières années en Russie, mais on sait qu'il y avait une grosse vague de traduction dans les années 90, il y avait une énorme vague de traduction de la philosophie française. Après, dans les années 2000, on a compris que des fois, il y a des problèmes avec ces traductions qui créent les embrouilles pour ce que... la science autonome russe sur la philosophie française se développe. Donc, où on est maintenant? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a l'intérêt? Ou est-ce qu'il y a un mépris? Parce que j'ai lu plusieurs articles dans les journaux un peu qui ne sont pas intellectuels, c'est les journaux russes où, par exemple, c'est drôle et pas drôle que la philosophie française est interprétée comme une quelque chose étroitement lié avec la dégénérescence générale de l'Europe, y compris les auteurs comme Foucault, de part de son orientation sexuelle, etc. Voilà. Donc, où on est maintenant avec, pas seulement Foucault, bien sûr, mais и это по-русски скажу, что вопрос заключается в том, что именно все ясно, хорошо.
For myself, well, we have not too much effort, but what I'm proud for is the publication of Alain Badiou, Le Siècle, his lectures in Economie Superieure, that it's not bestseller, but absolutely intellectual hit in Russian. Yeah? And for me, it's precious for understanding this short or long 20th century, and mastery to understanding the 20th century as the never ending, still not ended century of revolutions that still are waiting for us in the future. Well, and it's probably this third book by Alain Badiou we published before it was La Politique, Abrégé de Métapolitique. I don't know how is his reputation here in France, but I do like him, and my friends do appreciate his work as very valid for understanding Russian 20th, 21st century.
Ouais, pour moi, c'est mieux en français, mon anglais.
J'ai un mélange vraiment. Nous, on ne fait spécifiquement de philosophie, en fait, de collection philosophique.
Oui. Moi, je parle de votre impression, ce qu'il se passe sur la. Vous, en tant qu'éditeur, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette question, cette domaine de,
je sais pas.
Dans la société, parce que là, c'est parce que c'est mon intérêt un peu subjectif qui m'intéresse.
Oui, je dirais pas que j'ai quelques impressions, quelques spécifiques, surtout sur la philosophie, mais plus généralement, je dirais qu'il y en a beaucoup de traductions de français. Parmi des éditeurs et en science, en non-fiction, je dirais comme ça, plus généralement, il y en a beaucoup, surtout comme en fait, on a quelques. Je dirais, il y a une idée peut-être en Russie que l'écriture française, alors le mode d'écrit, et ça, c'est Alexandre a déjà touché cette question. C'est plus accessible. En fait, c'est la manière de parler des choses complexes, mais de manière accessible. Donc, c'est ce qui est intéressant au lecteur, au public. Et ça se vend, par exemple, comme j'ai déjà dit, dans cette collection sur la culture du quotidien, on a plusieurs auteurs français traduits. Et ça vraiment, ça se vend et ça vraiment provoque d'ailleurs.
Et les impressions d'Alexandre Beaubourg, ça m'intéressait.
Je dirais que les implications politiques pour les auteurs français ne concernent que l'extrême droite qui est assez forte dans les universités ou. Non, russe. Hein. Mais si on parle de traduction des auteurs français en russe. Hein. Mais au contraire de ces réactions, et parfois c'est vrai que même aujourd'hui dans les cours universitaires, on peut entendre dire que lisez pas Foucault parce qu'il est homosexuel. Alors, à part ça, quand même, les traductions du français restent de la philosophie, notamment par exemple, Enlo a traduit Vincent Descombes. Pour l'année de la France en Russie, c'était hors profil, mais justement c'était pour une occasion spéciale de l'année de la France en Russie. Et là justement, on dirait que ça correspond plus au goût des traducteurs, des rédactions, etc., moins aux exigences du marché, à part les situations où les auteurs français ont déjà reçu une reconnaissance internationale, ce qui est le cas de Latour. Parce que ceux qui s'intéressent plus sur la tour aujourd'hui en Russie ne sont pas francophones. Et là, je dirais que, disons, c'est quand j'ai évoqué la force du marché des livres qui prédéfinit aussi certaines traductions dans les revues, ça marche beaucoup par une marchandialisation internationale. Et si les auteurs français entrent dans ce rang des auteurs vendables, ce n'est plus la question de la langue d'origine ou de la nationalité.
Merci beaucoup pour cette réponse très, très détaillée. Je trouvais vraiment très stimulant et très riche cette discussion qui ne peut être qu'une entrée, je pense, dans tout cet univers. J'aimerais bien que, d'une manière ou d'une autre, on pourrait prolonger cet échange. Vous en aurez l'occasion au Salon du Livre, évidemment, mais bon, il y a plusieurs personnes ici qui circulent dans l'orbite de l'EHESS, peut-être qu'on pourrait rendre plus durable ces liens-là. Badiou, d'ailleurs, est un très bon exemple, si je peux amener le contexte allemand, pour un penseur français qui a une toute autre réception à l'étranger que le destin qu'il a ici en France. C'est vraiment très intéressant parce que pour nous, il est insupportable. Et ici, il est une espèce d'esthétique même étrange, que c'est par exemple un effet de transfert intéressant. Je vous remercie tous pour votre patience et pour votre engagement d'être ici. Et pour vous d'avoir apporté ces perspectives vraiment très intéressantes. Bonne soirée. J'espère que vous allez trouver votre chemin parce que tout est éteint maintenant. Non, c'est noir là. N'ayez pas peur. Et prochain séminaire, le
en avril en tout cas. Regardez notre site.